pas au-dessus du mortier, il y a que Jean-Louis Aubert qui pouvait écrire quelque chose comme ça. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et Cédric, ce soir, on reçoit Nicolas Jounin.
Oui, donc comme on vous l'a signalé au début de l'émission, donc Nicolas a fait une thèse sur les travailleurs du bâtiment, qu'il a soutenu il y a très peu de temps, et qui est une thèse magistrale, quoi, qui regorge d'éléments, et qui est fondée sur une très longue enquête qui va nous détailler aujourd'hui, et qui nous permet de voir un peu comment se structure ce secteur, quelles sont les relations entre les entreprises, quelles sont les relations de sous-traitance, le recours au travail intérimaire. Bref, tous ces sujets qu'on retrouve dans d'autres sphères du travail, mais qu'on retrouve avec une plus grande acuité probablement dans le secteur du bâtiment, notamment au travers du recours à différentes catégories de main-d'œuvre, en particulier des main-d'œuvre sans papier, avec un ajustement ethnique des différentes catégories de main-d'œuvre, etc. Bref, ça nous fait du pain sur la planche.
C'est du lourd.
On aura l'occasion d'y revenir durant cette émission. Mais pour commencer, on a envie de te poser une question. C'est comment t'en es arrivé à étudier ce secteur et comment tu t'y es pris, quoi.
Alors le secteur au départ, je ne le connaissais pas du tout. J'ai commencé par un stage dans un journal Politis dans lequel j'ai fait une enquête sur la délinquance patronale en matière de conditions de travail, donc sur les organes de contrôle, l'inspection du travail, la faiblesse des moyens, le classement par les parquets, ce genre de problème. Puis en rencontrant un syndicaliste du bâtiment qui me parlait d'un certain nombre de manœuvres africains arrivés récemment, soumis à des conditions de travail particulièrement difficiles, j'ai eu l'idée d'aller voir et en essayant de me faire embaucher moi-même comme manœuvre. Alors en étant ni africain ni noir, ça n'a pas été forcément évident au départ, parce que ma carrure n'est pas tellement athlétique, mais la question n'est pas tellement là, puisqu'il y a des manœuvres noires qui ne sont pas athlétiques, qui par contre sont prises, mais il y a une préférence très claire pour ceux qu'on va appeler assez souvent par ailleurs les boubous ou les mamadous, du fait qu'on anticipe qu'ils vont être davantage dociles. Et si on l'anticipe, on a généralement raison, notamment parce que la plupart sont des étrangers précaires avec des titres de séjour d'un an, voire des sans-papiers. Donc j'ai quand même réussi malgré tout à obtenir des missions d'intérim. Au fur et à mesure, quand on commence à avoir des relations un peu plus fidélisées avec des agents d'intérim ou avec des chefs de chantier, le fait d'être blanc redevient un avantage dans la mesure où on est davantage promis à des promotions que des gens plus foncés. Et donc j'ai continué après par un stage où j'ai essayé quand même un peu d'apprendre les métiers, donc les principaux métiers du béton armé, le coffrage, le ferraillage, des stages sur les chantiers, notamment dans le ferraillage, je vais pouvoir raconter un peu ce que ça donne après, et puis intérimaire, donc tout ça pendant près d'un an.
Et pour les gens qui connaissent assez peu le secteur, hein, comme moi, ce qu'on entend souvent dans les médias traditionnels, c'est les patrons qui se plaignent dans ce secteur d'une absence de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre qualifiée, de leurs difficultés à recruter, etc. etc. Est-ce que tu as pu constater ce genre de...
C'est effectivement très présent dans les médias. Il y a une communication très active sur la question de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est nouveau. Puis ce qui est très curieux aussi, c'est que ça arrive toujours dans ce genre de secteur. La restauration, le bâtiment, où par ailleurs les conditions de travail paraissent aussi parmi les plus précaires et les plus pénibles. Ce qui est curieux, donc, c'est qu'on a l'impression que c'est nouveau, et en fait, c'est la vieille rengaine du patronat du bâtiment depuis presque un siècle. Mais par exemple, en 1964, Francis Bouygues, le père, publiait déjà un texte disant on manque de main-d'œuvre, etc. Donc, toujours la même chose. On se dit, les mecs, vous avez compris, il y a pénurie de main-d'œuvre. On pourrait se dire, si on améliore les conditions de travail, si on augmente les salaires, c'est la loi de l'offre et de la demande, on va pas vous l'apprendre. Peut-être que vous allez résoudre cette question de la pénurie. Dès qu'on interroge un peu des directeurs de ressources humaines, ce que j'ai fait, des représentants de fédérations patronales, on s'aperçoit que on n'est pas prêt à donner plus. Et si on n'est pas prêt à donner plus, comme le disait le directeur d'un recrutement d'un grand groupe, c'est qu'au fond, on va toujours trouver les bras pour faire le travail. Donc, en fait, la rhétorique de la pénurie, c'est plutôt de dire, comme le disait déjà Francis Bouygues en 64, la pénurie, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. Traduction, on a des mauvais. Donc, en fait, la rhétorique de la pénurie sert à dire les ouvriers qu'on utilise sont mauvais. Ça sert en permanence à invisibiliser, d'une part, qu'on arrive toujours à construire des bâtiments avec des gens. La question, du coup, on évite la question de savoir dans quelles conditions on les utilise. Et puis, comme c'est des mauvais, ils ne méritent pas tellement qu'on les forme, qu'on les promeuve, qu'on les stabilise, etc. Donc, on est permanence dans une idéologie du provisoire. On est toujours en train d'utiliser des salariés en attendant de trouver les bons. le bon français, présentable aux clients, qualifié, loyal, disponible, qui fait des heures supplémentaires sans rechigner, dur à la tâche, etc. Donc le type qui n'existe pas. Et en attendant, on utilise des étrangers qui ne nous donnent pas satisfaction et qui ne méritent pas forcément qu'on les stabilise.
Alors peut-être pour continuer à présenter ce secteur du bâtiment, il faudrait parler de la sous-traitance parce que ça a l'air d'être massif et si c'est l'exemple par excellence d'un secteur qui fonctionne avec un maximum de sous-traitance et de sous-traitants de sous-traitants. Est-ce que on pourrait dresser un petit peu un tableau des pratiques?
Alors c'est effectivement massif, même s'il n'y a pas forcément, enfin en tout cas j'ai pas observé sur le chantier où j'ai été une cascade de sous-traitants, c'est-à-dire des sous-traitants, il n'y a pas forcément des milliards de rangs de sous-traitants. En revanche, bah, je prends l'exemple d'un chantier sur lequel j'ai travaillé, juste pour la partie béton armé, gros œuvre, sans même parler du second œuvre qui lui est complètement sous-traité. Juste pour la partie béton armé, on avait 120 bonhommes. Sur les 120, il y en avait 80 qui dépendaient de 3 entreprises sous-traitantes. Et sur les 40 restants qui dépendaient donc de GTM, puisqu'il s'agissait de l'entreprise GTM, il y en avait 25 qui étaient intérimaires. Donc au final, il y a 15 personnes sur les 120 qui sont embauchées directement par l'entreprise qui dirige le chantier, qui a pris le marché auprès du commanditaire. Et puis après, si on regarde dans les boîtes sous-traitantes, il y a aussi une forte proportion d'intérim. Notamment, moi, j'ai pas mal travaillé sur le ferraillage, donc qui est presque partout sous-traité, qui n'était pas il y a 30 ans, mais qui l'a été depuis 20 ans. Et là, on a des proportions d'intérim encore plus fortes, c'est-à-dire que quasiment aucun ferrailleur qui n'est pas chef n'est pas intérimaire. Donc les trois quarts des effectifs, 80% des effectifs sont intérimaires. Donc vraiment une forte proportion d'intérim qui concerne tous les employeurs.
Alors juste en deux mots, qu'est-ce qu'on fait quand on est ferrailleur? Qu'est-ce qu'on fait quand on est coffreur pour le bâtiment pour les nuls?
Alors, le gros œuvre, c'est de faire des murs, des poutres, des planchers en béton, des fondations. Le coffreur, grosso modo, il fait le moule du béton, ce qui va soutenir le béton, les panneaux qui vont permettre de couler du béton pour faire un mur, etc. Le ferrailleur est celui qui va mettre les armatures dans le béton armé, qui va poser la ferraille. Et puis, il reste le manœuvre qui va faire essentiellement du marteau-piqueur pour la démolition ou s'il y a des petites choses à faire ou qui va faire du nettoyage sur le chantier. C'est les trois principaux métiers. Après, il y a des maçons, finisseurs, mais c'est les trois principaux métiers que j'ai observés.
Alors moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'intérim et sur le recours à la sous-traitance. Dans un secteur comme ça qui est très très gourmand en main-d'œuvre, qui grosso modo va plutôt bien depuis très longtemps, pourquoi est-ce qu'on n'assiste pas à ce qu'il y a dans d'autres secteurs, c'est-à-dire l'instauration massive du CDI pour maintenir une main-d'œuvre à disposition au sein même de l'entreprise et pas avoir des surcoûts liés au recrutement occasionnel?
Alors le bâtiment, il est à la fois, par rapport à d'autres secteurs, il est à la fois des caractéristiques communes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de secteurs, malgré tout, sous-traitent en délocalisant. Et que le bâtiment, lui, il ne peut pas délocaliser, donc il faut qu'il sous-traite sur place. Je vais revenir, et puis c'est déjà ce qu'évoquait Emmanuel Terret il y a quelques temps ici. Et puis, il y a le fait que, de toute façon, le bâtiment n'a jamais cherché vraiment à stabiliser sa main-d'œuvre. Pendant les Trente Glorieuses, où effectivement des secteurs comme l'automobile cherchaient davantage à stabiliser la main-d'œuvre, donner davantage de protection, de garantie, dans le bâtiment, ça tournait énormément. Aussi bien du fait des entreprises qui pratiquaient couramment le licenciement en fin de chantier, c'est-à-dire le chantier est fini, on vire tout le monde, que les ouvriers, à l'époque il y avait pas mal de travail, qui partaient d'une entreprise pour quelques centimes supplémentaires. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une conjonction au début des années 70, avec d'une part une baisse de la demande, une augmentation du chômage dans le secteur, donc des salariés qui vont demander davantage à être stabilisés, et puis des nouvelles lois sur le licenciement qui vont rendre le licenciement en CDI beaucoup plus difficile. Il faut une cause réelle et sérieuse, dit la loi désormais, pour licencier, donc ça devient compliqué. Mais parallèlement et en même temps, on a des nouvelles lois sur la sous-traitance en 75 qui vont permettre de légitimer la sous-traitance, et sur l'intérim en 72, qui jusque-là était un peu dans une sorte de no man's land juridique, qu'on ne savait pas très bien si c'était légal ou pas, et donc on va légaliser l'intérim, qui est une forme de marchandage, le marchandage étant interdit par ailleurs, mais en même temps qu'on interdit le marchandage, la fourniture de main-d'œuvre, on va en donner le monopole à des agents particuliers que sont les agences d'intérim. Et donc, à ce moment-là, le patronat du bâtiment va réclamer à Corse et à Cri un contrat de chantier, un contrat où on peut licencier les gens, une sorte de CDD sans durée déterminée, où on peut licencier les gens à la fin de la tâche, à la fin du chantier, un peu ce que proposait aussi De Virville dans son rapport en 2004. Il réclamait ça, mais ça a tardé à venir. Et c'est arrivé finalement qu'en 78. Et à ce moment-là, en fait, il était déjà trop tard, c'est-à-dire que les entreprises du bâtiment avaient déjà trouvé les solutions, elles avaient déjà commencé à recourir à la sous-traitance, à l'intérim. Ça commençait déjà à devenir massif et ça n'a fait qu'augmenter au cours des 30 dernières années. L'intérim a eu des augmentations, des baisses. L'intérim amplifie toujours les variations de l'activité, mais grosso modo, sur la longue période, il y a vraiment une augmentation très forte de l'intérim, beaucoup plus que l'emploi salarié global dans le bâtiment.
Mais enfin, une partie des difficultés que rencontrent d'autres entreprises pour recourir à l'intérim ou à la sous-traitance, qui disent aussi parfois on n'obtient pas un personnel qui parvient à faire des tâches relativement complexes ou qui nécessitent un apprentissage long, etc. Et dans le bâtiment, on pourrait se dire aussi, bon, on voit bien que pour des manœuvres, on parvient à avoir des tâches déqualifiées, mais peut-être pour des coffreurs, etc., c'est pas un boulot un peu qualifié qui nécessite des gens longuement formés.
Ce sont des boulots qualifiés, et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on tente d'une part de précariser la main-d'œuvre, et puis je n'ai pas précisé exactement dans quelles conditions fonctionnent les agences d'intérim. C'est-à-dire que le contrat d'intérim, normalement, c'est la même chose qu'un CDD. On doit le signer dans les 48 heures, et puis ça doit fixer une date de fin. Donc, OK, c'est précaire tout ça, mais il y a quand même une forme de certitude. On sait quand ça finit. En fait, dans les agences d'intérim du bâtiment à Paris, on ne fait pas signer de contrat, ou on le fait signer à la fin de la mission. Une fois, en fait, qu'on a viré l'intérimaire. Donc, le résultat, c'est qu'on peut se séparer de l'intérimaire du jour au lendemain. Vraiment du jour au lendemain. Y compris des intérimaires qui sont là depuis des années, qui travaillent avec la même agence d'intérim ou la même entreprise depuis des années. Donc, ils sont stables, mais ils sont précaires. Ils peuvent toujours être renvoyés du jour au lendemain. C'est ce qui fait que l'intérim est intéressant, parce que sinon, les entreprises, elles utiliseraient directement le CDD. C'est la même chose. Donc, pourquoi utiliser l'intérim? C'est juste donner un peu d'argent à un patron intermédiaire. Sauf que, on externalise des inégalités, notamment l'emploi de sans-papiers, mais aussi le fait qu'on peut renvoyer les gens du jour au lendemain. Et pour des métiers comme ferrailleur ou a fortiori coffreur, qui réclament effectivement des qualifications, mais même manœuvre à la limite, hein, on voit très bien, on va voir beaucoup de chefs de chantier qui vont dire « l'agence d'intérim, il m'envoie que des mauvaises manœuvres ». Ce qui peut paraître curieux, on se dit, manœuvre, ils n'ont aucune qualification. Sauf que, effectivement, quand moi, on m'envoie manœuvre alors que j'ai 2 semaines d'expérience, quand on me donne un marteau-piqueur, je sais à peine m'en servir. Un type qui fait ça depuis 10 ans parce qu'on ne le laisse pas monter, il va beaucoup plus vite, il travaille beaucoup mieux, et à la limite, on va aussi chercher à le fidéliser, bien qu'il reste précaire. Et donc, dans ces métiers-là, notamment dans le métier du ferraillage, qui a été extrêmement dévalorisé, qui, au moment de son externalisation, en même temps, a été intérimisé, je dirais, on utilise de plus en plus d'intérim. Ça crée effectivement des effets pas très souhaités par les entreprises. Ça crée des désertions, ça crée des fuites des travailleurs qui gagnent 2000 francs par semaine, puisqu'on compte en 300 euros, on compte en semaine dans l'intérim. Et puis ça pose des problèmes de déperdition de savoir-faire. Et donc effectivement, un patron du bâtiment, un patron d'une entreprise de ferraillage pouvait se poser la question de comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de bâtiments qui se cassent la figure en France.
familia, batabaya, mosca, la boca.
Ma Fatma me met sur la touche, ne veut plus que je la touche, j'ai les doigts remplis d'enduit. Mon papa est ripolin, elle m'avait habit 3000 fois de ne plus sentir la peinture, mais c'est dur, je l'évite, je sens même le white spirit.
Des baskets, des casquettes, des jaquettes, mais pas de prise unique, Adidas,
des bouquets. Et Nike, Koumouk, Niette, dans le moteur, la mobilette à pied. Je guette des prostituées, de Pigalle ou de Sani. Je lâche un billet et je monte dans la chambre. À peine elle fait, je crache, faut descendre. Dodo, le matin, sur l'escabeau, bobo, les responsables du chantier, abigé, pas de payer congé,
pas les congés payés.
La France m'a fourré dans les cartes postales. Je croyais que c'était cool, tu viens et tu t'installes. Et le vendredi, je suis tellement fatigué. Depuis 74, j'ai pas été en boîte de nuit. Mais dès le lundi, je n'ai su ni Travolta, Ado, Mathieu, Nougat, Simon, Isaac, de Bongolais, Yannick, Noa. Non, non, l'ouvrier, c'est moi. Au-dessus du sol, sans sécurité, c'est comme du bénévole. Et quand un camarade dégringole, le boss accuse le macabre d'avoir bu de l'alcool. Plus les coups de rouleau bassent, plus je tape à la masse. Aveuglé par le nuage du ponçage, mon corps prend de l'âge, mon esprit de la rage. Je regarde mon bide exploser. Je suis l'outil pour construire le patrimoine français sur les fronts sans pitié. Vous m'avez compris.
Et aujourd'hui, tout ça c'est fini. Le jeune apprenti te propose le coup de ta vie. Un braquage, ça passe ou ça casse.
Je ne veux plus rester les mains dans la même tasse. À chier, regardez ce que vous avez fait de moi. Alors que je n'étais que...
Ah
C'était Stomy Buxy avec son titre L'Ouvrier. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on est avec Nicolas Jounin. On parle du bâtiment aujourd'hui en France. Il y a quelques semaines dans cette émission, Emmanuel Terret est venu nous parler de la situation des sans-papiers et a développé un certain nombre de choses sur le travail clandestin aujourd'hui en France. Et il explique qu'on a affaire dans un certain nombre de secteurs d'activités à des activités qui ne pouvant pas être délocalisées puisqu'elles ont besoin d'une certaine proximité avec les lieux de production tels que la restauration, une partie de la confection et évidemment il citait le bâtiment où on organise sur place une sorte de délocalisation sur place. On fait venir à ces secteurs une main d'œuvre qui va travailler dans les conditions de la délocalisation. Alors voilà un petit peu le schéma global qu'il décrivait sur les rapports au travail des sans-papiers aujourd'hui en France. Est-ce que toi c'est quelque chose qui fait écho par rapport au travail que tu as fait sur le bâtiment et comment ça s'incarne dans le bâtiment ce travail clandestin?
Ça fait tout à fait écho et même à la limite le schéma de Emmanuel Terret s'applique encore mieux à des évolutions actuelles qu'il n'avait pas encore vu quand il l'a mis en place. Je vais revenir là-dessus. D'abord sur le travail clandestin dans le gros œuvre strictement. En fait, je dirais pas travail clandestin ni travail au noir parce que souvent ça permet les amalgames. Travail clandestin égale travail de clandestin, de même que travail au noir égale travail de noir. Dans le droit du travail français, ni l'un ni l'autre n'existe. Ce qui existe uniquement, c'est d'abord le travail illégal. Et ça, le travail illégal, il y a tout un tas d'infractions, notamment celle que j'ai décrite tout à l'heure, le fait de ne pas faire signer de contrat aux intérimaires, c'est du travail illégal. Et à l'intérieur du travail illégal, il y a du travail dissimulé, donc le fait de ne pas faire des déclarations à l'URSSAF. Et donc les gens ne cotisent pas, les gens ne touchent pas d'allocation chômage, d'allocation retraite, d'allocation maladie. Et dans le travail dissimulé, c'est aussi bien, ça peut être des Français, des étrangers réguliers, des étrangers irréguliers. Alors évidemment, quand on est étranger irrégulier, et à partir du moment où le patron le sait assez facilement, il peut le repérer ne serait-ce qu'à la docilité de la personne, la docilité peu commune de la personne face à l'employeur, on va peut-être davantage effectivement songer à ne pas dissimuler, à dissimuler le travail ou à ne payer qu'une partie. Il arrive effectivement que des gens se retrouvent avec tout simplement et travailler quelques jours et puis se retrouvent avec un chèque en bois. Ça arrive. Il y a des agences d'intérim qui se montent que pour quelques mois, juste le temps de quelques mois, le temps parce qu'après, au-delà, elles vont être repérées par l'URSSAF. Elles emploient tout le monde au noir et puis hop, elles ferment boutique. Et puis la troisième chose qu'il y a, c'est l'emploi de main-d'œuvre étrangère, irrégulière ou sans autorisation de travail, ce qui est encore une troisième infraction. Et là, effectivement, dans le gros œuvre, c'est les agences d'intérim qui mettent ça en place. Alors avec un jeu de dupes où les intérimaires fournissent bien souvent des faux papiers ou éventuellement ils utilisent les papiers d'un parent, mais souvent, c'est des faux papiers qui coûtent pas cher, qui sont assez grossiers, qui coûtent 150 à 200 euros à peu près. Ça suffit à l'agence d'intérim pour faire une photocopie et puis le jour où il y a un contrôle, dire « Ah, moi, je savais pas, on m'a donné ça, j'ai les papiers ». Personne n'est dupe, hein, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai fait des entretiens des deux côtés, personne n'est dupe. Mais en tout cas, ça permet que le jour où il y a un contrôle de police sur un chantier, et ça arrive de plus en plus souvent, les seuls vraiment menacés sont les travailleurs sans papiers. Et alors là où le schéma d'Emmanuel Terray, il est encore plus actuel aujourd'hui, c'est que malgré tout avec les sans-papiers, quand il parle de délocalisation sur place, c'est pas tant qu'on a fait venir des gens, c'est des gens qui viennent et dont on exploite la fragilité relativement aux droits des étrangers. Ils sont là, ils n'ont pas le droit d'être là, ils ont c'est des sous-citoyens, ils n'ont quasiment pas de droits, très peu, donc des patrons vont exploiter ça. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui se développe actuellement dans le bâtiment, et des secteurs comme des métiers comme le ferraillage que j'ai étudié sont en train de changer à toute vitesse et où ça change. On utilise de moins en moins de sans-papiers et on utilise de plus en plus la prestation transnationale de services. Alors ça, c'est quoi? On en a beaucoup entendu parler au moment de la directive Bolkestein avec la question du principe de pays d'origine. C'est des entreprises dans le ferraillage, en l'occurrence polonaise, donc le ferrailleur polonais, qui vont proposer leurs services aux entreprises françaises et qui vont détacher leurs travailleurs qui sont donc sous contrat de travail polonais. Ça a plusieurs conséquences. C'est d'abord qu'ils vont payer leurs cotisations sociales en Pologne. Donc ça permet une forme de dumping social sur les cotisations sociales. Et ça permet aussi que ces travailleurs polonais, s'ils se fâchent avec leur patron en France, ils n'ont pas le droit de travailler pour un autre patron. Ils n'ont pas le droit de se faire embaucher en France. Donc, pour survivre, c'est pas évident. Pour se fâcher avec son patron, du coup, c'est pas évident non plus. Et si les entreprises de ferraillage recourent davantage à cette prestation transnationale de services, c'est que malgré tout, ce montage-là, malgré certaines irrégularités, il est assez légal. Et il est plus légal que le fait d'embaucher, même indirectement par le biais d'agences d'intérim, des sans-papiers, alors que, semble-t-il, l'augmentation statistique du nombre d'expulsions a des répercussions sur les chantiers, on le voit bien, il y a de plus en plus de contrôles sur les chantiers, les entreprises ont commencé à avoir un peu peur, et donc elles recourent à cette prestation transnationale de services.
Et justement, l'occasion de ces contrôles sur le chantier, ce sont les ouvriers qui sont visés, ça, sûrement, et le patronat? Les patrons des boîtes qui emploient ces ouvriers sont aussi visés par les contrôles?
Alors, moi, quand j'ai vu ça, puisque j'ai été envoyé sur un chantier, ma première mission en tant qu'ouvrier qualifié, j'étais content pour ça, mais je n'étais pas content pour la raison, c'est que en fait, il y avait un contrôle sur le chantier, et sur les 15 ferrailleurs présents, il y en a 10 qui sont partis, soit ils ont été arrêtés, soit ils ont réussi à s'enfuir. Et l'agence d'intérim, qui était leur employeur direct, elle a toujours pignon sur rue, elle appartient à un groupe, tout va bien. L'entreprise de ferraillage qui les utilisait, qui savait parfaitement ce qu'il en était, le patron a été entendu une journée, et c'est tout. Alors, l'entreprise générale qui est au-dessus, qui dirige le chantier, et dont les politiques de prix bas sont indirectement à l'origine de cette exploitation-là, évidemment, elle n'a pas été menacée. Il semblerait, il y a eu des changements, notamment dans la loi de 2006 réformant le CESEDA, qui impliquerait davantage de responsabilités en cascade, enfin où les donneurs d'ordre sera davantage mis en cause. Et c'était notamment ce que un patron du ferraillage mettait en avant pour dire vaut mieux recourir à la prestation de transnationale de service parce que ça risque d'être chaud pour nous. Il disait, bon, on savait très bien comment ça marchait. Là, on fait des plis recommandés aux agences d'intérim en disant vérifiez bien que vos intérimaires sont sans papier. Bon, eux, ce sont pas sans papier. Bon, il sait très bien qu'on peut pas le vérifier, mais c'est pour avoir envoyé ce recommandé qui prouve qu'il a fait attention à. Mais voilà, vraiment, on observe, semble-t-il, ces dernières années, une augmentation des contrôles.
Alors, moi, ça me surprend un peu quand tu parles de l'intensification des contrôles, parce que j'avais dans l'idée, ça avait la réputation d'être un endroit tranquille, les chantiers. De toute façon, la police y mettait pas les pieds, et l'inspection du travail, vu les moyens dont elle disposait, de toute façon, avait absolument pas les moyens de contrôler ce qui s'y passait. Et on parlait tout à l'heure, avant cette émission, du cas, par exemple, du Stade de France, où c'était de notoriété qu'il y avait un large volant de la main-d'œuvre qui était sans papier. Qui travaillait sur ce chantier et qui avait pas, il n'y a pas eu de contrôle pendant tout le déroulement du chantier quasiment.
Ça a été effectivement longtemps comme ça. Je peux pas garantir que ça a complètement changé parce que vraiment j'ai quitté le terrain à une époque où c'était encore comme tu le décris et où même à une époque, je sais plus quelle préfecture avait créé un numéro vert pour que les employeurs puissent appeler pour vérifier. Que les papiers étaient bons, et ça avait été supprimé sous la pression d'on ne sait qui, parce que justement ça aurait permis de vérifier que les papiers étaient faux, et donc ça aurait levé le statu quo. Donc effectivement il y a eu ça complètement, il y a eu la phrase fameuse de Lionel Jospin en 98 à tous les déboutés de sa régularisation, les 60 ou 80 000, en disant on ne viendra pas vous chercher chez vous. Donc ça veut bien dire continuez à fermer votre bouche et à travailler sur place, mais surtout ne faites pas de bruit. Mais là, en tout cas, les échos que j'ai, c'est qu'il y a vraiment un changement. On impose aux agences d'intérim d'avoir des machines qui reconnaissent les faux papiers, donc elles n'ont plus forcément l'excuse de « je suis pas flic, je suis pas là pour le reconnaître ». Les hypothèses de plusieurs employeurs du bâtiment que j'ai rencontrés, mais ça ne repose que sur leur témoignage, c'est que on est en train de préparer la préférence européenne qui était déjà sensible dans les discours il y a quelques années. Et on est en train de préparer l'arrivée, le remplacement d'un certain nombre d'ouvriers immigrés du bâtiment par des immigrés polonais ou issus des nouveaux pays intégrés à l'Union européenne. Ça risque pas, c'est pas sûr de marcher d'ailleurs, parce que ces immigrés polonais, pour l'instant, comme je disais, ils n'ont pas le droit de travailler en dehors de l'entreprise polonaise qui les a détachés. Mais au plus tard, au 2011, ils l'auront, ce droit. Donc ils ne vont pas forcément être aussi dociles que l'étaient des sans-papiers. Pour l'instant, on dit qu'ils sont davantage dociles que des sans-papiers, même. C'est ce que disent les patrons que j'ai rencontrés. Mais en 2011, c'est moins sûr. Donc peut-être que là, on va recourir à des prestations transnationales de services encore plus lointaines, avec des entreprises qui viendraient de pays hors Union européenne, et avec des gens qui, du coup, en dehors de leur relation avec leur patron, n'auraient droit ni au séjour ni au travail en France.
Mais les agences intérimaires, elles n'ont pas recours à cette main-d'œuvre extra-française. Ils ne vont pas chercher une espèce de vivier de main-d'œuvre dans ces pays européens sans passer par les entreprises directes.
Alors, je ne l'ai jamais observé sur les agences que j'ai vues, mais je l'ai déjà entendu dire. Je n'ai pas pu le vérifier. Et il y a aussi l'hypothèse d'agences d'intérim étrangères qui détachent des intérimaires ici. C'est également possible. Pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est plus des entreprises étrangères du bâtiment qui détachent leurs salariés, éventuellement dans un montage complètement bidon. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai en tête une entreprise polonaise qui est de droit polonais, mais qui en fait a 10 personnes. Les 10 personnes sont en France, dont le patron qui travaille aussi sur les chantiers en même temps, donc qui n'a aucune existence en Pologne, hormis quelques papiers et des contrats de travail polonais qui permettent donc de payer les cotisations sociales en Pologne, et que les salariés n'aient pas le droit de travailler en France par ailleurs.
Alors moi, on pourrait peut-être aborder un autre aspect de ton travail qui est sur les rapports ethnique. Alors on va mettre plein de guillemets partout, parce que c'est pas des choses faciles. Notre fond antiraciste et notre culture c'est toujours un petit peu difficile d'aborder ces questions-là sans risquer de marcher sur la ligne jaune. Mais c'est quelque chose que tu abordes de manière très intéressante dans le monde du bâtiment, cette espèce d'ethnicisation des rapports sociaux qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce domaine-là où chacun, en fonction de certain nombre de caractéristiques d'origine, va avoir telle ou telle place. Ce serait assez intéressant que tu donnes un petit peu le panorama peut-être de comment ça se passe en Île-de-France et à qui on attribue quelle qualité.
Alors, moi, j'ai pas peur de parler de relations interethniques à partir du moment où des catégories ethniques, c'est-à-dire des catégories qui renvoient à l'origine, sont mobilisées couramment par les gens, par les pouvoirs publics, par les patrons, par les ouvriers, etc. À partir du moment où ils s'identifient comme étant, je ne sais pas, arabe, noir, africain ou bambara, suivant les distinctions qui sont faites, on est obligé, je pense, de le prendre en compte. Alors, effectivement, dans le bâtiment, dans le Gros Œuvre, il y a une série de mécanismes de discrimination qui vont faire qu'à certains emplois, on va retrouver plutôt certaines origines et même certaines couleurs. Alors le premier mécanisme, tout bêtement, c'est un peu ce que je disais, c'est pas propre au bâtiment, c'est une conséquence dans le bâtiment de ce qui se passe au niveau des politiques d'immigration en France. C'est-à-dire que historiquement, on a favorisé l'immigration européenne en se disant que ça pouvait être des migrations de peuplement parce que elle serait davantage assimilable, ils nous ressemblent, ils sont blancs, je ne sais quoi. Et puis par contre des conditions de plus en plus difficiles pour les immigrations africaines du nord et du sud. Donc là, en plus avec l'Union européenne, les Portugais par exemple ont la liberté de circulation et d'installation, ils sont donc favorisés. Et ça a une implication après au niveau du bâtiment, parce qu'au niveau du bâtiment on a donc par exemple pour ces salariés embauchés dans les entreprises générales, ça c'est des salariés effectivement CDI, assez stables, très qualifiés. Donc ce qui est important, c'est qu'ils soient stables légalement, qu'ils soient stables socialement, qu'ils soient fidèles. Donc il vaut mieux qu'ils aient des titres de séjour solides, ou voire la nationalité française. En revanche, les intérimaires précaires, pour qu'ils acceptent leur situation, il vaut mieux justement qu'ils aient une existence légale et sociale beaucoup plus vulnérable. Et donc éventuellement qu'ils soient sans papier ou qu'ils aient des titres de séjour précaires, parce que le renouvellement d'un titre de séjour d'un an, c'est jamais gagné. Donc il y a ces premiers mécanismes de discrimination légale. Et après, un second mécanisme qui est le recrutement par cooptation, qui n'a pas forcément une vocation raciste, mais qui en revanche est mis en place par tous les employeurs et qui est revendiqué là très officiellement, y compris par des barèmes de bons points donnés aux salariés qui vont ramener d'autres, qui vont ramener leurs parents, etc. Donc c'est pratiqué par tout le monde. Et l'objectif, c'est principalement de faire une économie sur la recherche de personnel. C'est nos salariés qui recherchent du personnel à notre place. Et puis aussi sur la fiabilité de la personne, parce qu'une personne engagée en vaut deux, en l'occurrence en vaut deux moralement, puisque si c'est votre père, votre cousin ou votre ami même qui vous a amené, vous allez hésiter davantage à vous fâcher. Et le troisième mécanisme, là, c'est une gestion explicitement raciste de la main-d'œuvre mise en place par un certain nombre d'employeurs, et notamment les employeurs intermédiaires, mais qui sont les plus importants dans cette gestion très décentralisée de la main-d'œuvre avec la sous-traitance. Et quand vous allez interviewer des commerciaux d'intérim, vous voyez qu'il y a une grille gestionnaire raciste qui traverse l'activité de l'intérim, même quand les commerciaux d'intérim n'y adhèrent pas forcément. Ils peuvent être gênés aux entournures, mais ils savent qu'il faut la connaître, ils savent qu'il faut l'investir. Où là, les Portugais sont présentés comme les rois du bâtiment, plutôt coffreurs, maçons, chefs d'équipe. Les Maghrébins sont plutôt vus comme des ferrailleurs, par ailleurs assez vindicatifs et colériques. Et les Maliens sont vus plutôt comme des manœuvres, rien d'autre, ils ne peuvent pas être autre chose, plutôt dociles. Alors après, sur le chantier, dans les relations entre ouvriers, forcément, ça a des répercussions. Et notamment, par exemple, je prends l'exemple des manœuvres, donc qui à 90-95% sont intérimaires, qui dans une proportions encore plus écrasantes sont noirs, qui soient principalement maliens, sénégalais, mauritaniens ou éventuellement haïtiens. Et on va souvent, et c'est assez spécifique à cette catégorie, on va les appeler Mamadou. C'est-à-dire on va dire les Mamadou pour désigner l'ensemble de catégories, on va dire ce Mamadou pour désigner quelqu'un, ou on va appeler quelqu'un Mamadou, peu importe qui s'appelle Touré ou Keïta, on s'en fiche. Ça s'explique vraiment aussi, c'est vraiment une catégorisation raciste qui est vraiment spécifique au bâtiment, on ne la retrouve pas forcément ailleurs, heureusement, ce n'est pas tous les Noirs au travail qui se font appeler Mamadou, qui est permise par cette forme d'emploi, par l'intérim. L'intérim permet que, pratiquement, les gens soient interchangeables. Donc après, on ne peut pas s'étonner que, dans l'imaginaire, ils soient complètement indifférenciés, qu'ils apparaissent comme identiques. Et le fait que, vraiment, c'est une catégorie raciste, ça marche qu'avec des Noirs. C'est-à-dire que moi, en tant que Blanc, comme manœuvre, on ne m'a jamais appelé Mamadou. Mais en même temps, c'est quand même une catégorie qui fonctionne par rapport à une situation de classe. C'est-à-dire qu'il faut être manœuvre pour être appelé Mamadou. C'est-à-dire que des Noirs qui sont qualifiés, on ne va jamais les appeler Mamadou, voire des Noirs qui sont qualifiés vont appeler des manœuvres noires Mamadou, au risque éventuellement de se faire rappeler que c'est quand même un petit peu raciste.
Pour qui veut pas, si qu'on pleure dans les marais, si qu'on gueule dans le fracas, si que toujours on dit jamais, si qu'on saigne sur nos pansements, si qu'on tombe avant les échelles, si qu'on dérape sur les serments, si qu'on se ressource à l'eau de vaisselle, on ouvrira peut-être un bistrot, comme un boxeur, comme un cycliste, comme un ouvrier à la retraite, on ouvrira peut-être un bistrot. Kidnapper la fin de la fête. Puisqu'on veut faire du pain des miettes, on n'a pas eu assez de sourire, on s'est pas chopé Henriette, on n'a pas peur d'avoir l'air pire. Puisqu'on s'en fout d'être pas beau, puisqu'on a des croûtes aux genoux, puisqu'en haut c'est un peu trop haut, puisqu'on veut bien strier les poux, on ouvrira peut-être un bistrot, comme un boxeur, comme un cycliste, comme un ouvrier à la retraite. On ouvrira peut-être un bistrot pour kidnapper la fin de la fête. Alors comme ça on a vécu. Salut à tous les fatigués, les rigolos qu'on ont plein le cul, les amoureux au cœur cassé. Si qu'on doit refleurir l'espoir, tant pis les hontes de nos débâcles, faut tendre aux vaillants un miroir. On le fera dans notre cour des miracles. Et on ouvrira un bistrot, comme un boxeur, comme un cycliste, comme un ouvrier à la retraite. Et on ouvrira un bistrot pour kidnapper la fin de la fête.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est toujours avec Nicolas Jounin. On parle du travail dans le bâtiment. Cédric, tu voulais lire un extrait de la thèse, puisque
oui,
tu as la thèse de Nicolas sous les yeux.
Nicolas parlait de la gestion raciste de la main d'œuvre, et donc je voulais lire un passage d'un entretien qu'il a réalisé avec une directrice d'intérim, 25 ans d'expérience, et qui parle justement de la gestion ethnique et raciste de la main-d'œuvre. Et elle dit donc les Maliens sont des gens passifs, vraiment. Je ne peux pas parler d'eux parce qu'ils sont franchement vraiment très gentils. Je dirais qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème avec ces gens-là. Bon, je passe un bout de l'entretien et je reviens à ce qu'elle dit par ailleurs. Elle dit n'étant pas raciste, hein, mais il y a des races que je ne prends pas. Les Turcs, par exemple, je n'en prends pas. Ce n'est pas une question de racisme, mais je ne les connais pas trop bien, quoi. Donc ici, je ne veux pas d'histoire. Ici ou ailleurs, moi, je ne veux pas d'histoire. Je veux pas qu'on me lève la main. Je veux pas qu'on me parle mal. Moi, j'ai 58 ans. Je ne le permets pas. Donc, ce sont des gens qui sont comme ça. Donc, j'évite. J'évite, c'est tout. Je leur dis rien. Moi, j'évite. Mais par contre, il y a un moment, un gars, un plombier, un péruvien, vous voyez. J'en avais jamais pris, ou très peu. C'est pas des qualifications. C'est pas des gens qu'on voit beaucoup dans l'intérim. Eh bien, c'est des gens très gentils, vraiment très respectueux, très gentils. Vous voyez ça? Ça, c'est une race que je ne connais pas et qui est vraiment parfaite.
Alors, au-delà du fait qu'on doit être très content, quoi, comme matière pour un sociologue quand on a ce genre d'entretien, comment tu...
Alors, déjà, je crois que ce qu'elle dit, si je me souviens bien, à propos des Turcs, c'est non pas « je ne les connais pas trop bien », mais « je les connais trop bien ».
Oui,
et je pense que, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les commerçants d'intérim, de manière générale chez les chefs de chantier, chez les petits patrons, tous ceux qui ont un contact direct et hiérarchique avec la main d'œuvre, c'est de dire je les connais bien. jusque Francis Bouygues qui dans une interview célèbre en 70 disait ah, les étrangers, moi ça fait 20 ans que je travaille avec eux, donc je les connais bien. Ça fait vraiment écho, moi je trouve, avec la phrase de Frantz Fanon qui dit dans Les damnés de la terre, le colon a raison de dire qu'il connaît les colonisés, qu'il les connaît bien, parce que c'est lui qui continue à les faire, c'est lui qui les fabrique. Donc cette idée de la connaissance, elle est vraiment importante, et cette idée de je les connais, donc je peux avoir un discours raciste. Et par ailleurs, j'ai un discours raciste de dominant, et c'est vraiment, on voit bien que le racisme, c'est un rapport de domination pour assigner les gens à des places, et c'est pas du tout réductible à une quelconque phobie, à de la peur, à je ne sais quoi. Parce que certains sociologues essaient de dire que le racisme, c'est l'apanage des ouvriers déchus, des précaires, des je ne sais quoi. Quand Claude Bébéard dit a peur du suicide de la race blanche, ou quand un ancien président de la République parle du bruit et l'odeur, pas l'impression qu'il soit particulièrement déchu, mais il y a un racisme dominant très prégnant. Et ce que je voulais dire, c'est que ces images racistes, évidemment, elles traversent tout le monde. Par contre, c'est pas pour ça non plus que les ouvriers en sont exempts. Et on peut voir notamment qu'il y a toute une imagerie raciste qui va se constituer à propos des Portugais. Les Portugais n'ont pas vu d'au-dessus, comme on a pu voir avec les manœuvres maliens, mais vu d'en dessous par ceux qui s'estiment en dessous, qui ne sont pas forcément d'ailleurs. Mais on va dire que les Portugais, c'est les vrais racistes. Les Portugais, c'est eux qui font travailler vite. Les Portugais, c'est des salauds, etc., etc. Les Portugais, ils veulent toujours que tu fasses comme ils te disent de te faire, etc. Parfois, c'est accompagné d'une comparaison flatteuse avec les Français. Mais les Français, on les voit pas tellement sur les chantiers. Ceux qui effectivement vont dire aux gens comment il faut faire, ceux qui vont contrôler les gens, ceux qui vont éventuellement donc les fliquer, les humilier, ça va être des chefs d'équipe, et les chefs d'équipe sont très majoritairement portugais. Par contre, c'est pas la majorité des Portugais qui sont chefs d'équipe, et du coup tous ceux qui sont simples ouvriers sont un peu prisonniers de cette image-là de Portugais qui sont des traîtres en quelque sorte.
Et par ailleurs, on voudrait aborder un autre sujet qui est vraiment important pour le bâtiment et qu'on connaît par ailleurs, c'est la question des conditions de travail, parce qu'on peut imaginer que, au vu des conditions d'emploi très précaires que tu viens de décrire, on peut imaginer que les conditions de travail derrière sont aussi difficiles pour cette population qui bénéficie de peu de droits par ailleurs. C'est quelque chose dont tu peux faire état, que tu as pu observer aussi.
C'est très dur, c'est compliqué parce que moi j'ai pas fait de vraies études épidémiologiques ou ergonomiques pour voir qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui fait mal. J'ai pu le ressentir que moi-même. J'ai pu avoir que les témoignages de tous ces gens, par exemple de tous les gens qui avaient mon âge, de mecs qui avaient mon âge et qui devaient déjà porter une ceinture dorsale et qui savaient qu'ils seraient condamnés à en porter toute leur vie. Jusqu'à ce qu'ils, tant qu'ils tiennent au travail, en tout cas, à cause du travail, de tous ces gens s'exprimer, enfin, De diverses manières, la fatigue, dans le fait qu'on n'arrive même pas à récupérer le week-end, dans le fait que un ferrailleur, par exemple, qui disait un ouvrier du bâtiment qui vit après 65 ans, c'est qu'il a été feignant. À travers la perte de puissance sexuelle, c'est aussi extrêmement exprimé dans cet ordre-là, en disant « à 40 ans, t'es fini ». À 40 ans, tu niques plus, c'est quelque chose qu'on entend très souvent.
Mais ce qu'on voit aussi, notamment dans les discours d'ergonomes, c'est l'idée que s'ils connaissent des conditions pénibles, c'est aussi parce qu'ils ne respectent pas les règles, les règles officielles.
Alors effectivement, c'est un discours très très courant sur la sécurité des institutions publiques et des directions. Ils ne respectent pas les règles. Ils connaissent pas les règles, donc heureusement qu'il y a les conducteurs de travaux, les ingénieurs, les cadres qui sont là pour faire évoluer un peu les mentalités, faire bouger tout ça, mais c'est vrai que c'est long, il faut toujours le redire, il faut toujours le répéter, c'est très très dur. Juste pour balayer cette idée, je raconterai un épisode. Je suis arrivé sur un chantier avec un type qui avait mon âge, qui portait une ceinture. On décoffrait des planchers, pardon. Donc il fallait porter des étais métalliques très lourds, et on décoffre un premier plancher, il me dit « alors voilà, attention, les étais métalliques, il faut bien les poser par terre pour la sécurité, si tu les adosses à un mur, ils risquent de tomber et de blesser quelqu'un. Okay ». Deuxième plancher, il les adosse à un mur. Alors là, je comprends plus. Il fait « oui, non, ça, je t'ai montré pour la sécurité, maintenant tu sais, mais maintenant pour la cadence qu'on va te demander, qu'on nous demande, il faut que tu les adosses au mur. » Donc les règles de sécurité, ils les connaissent. Mais ils connaissent aussi bien les règles de cadence et ils savent lesquelles doivent primer et ils savent lesquelles pèsent éventuellement sur leur emploi.
Parce qu'ils ont des cadences imposées de manière standardisée, presque comme à l'usine.
C'est pas des cadences, des mouvements standardisés de quelques secondes ou même de quelques minutes, mais c'est grosso modo, on coule un étage pour un bâtiment de logement normal, on coule un étage toutes les semaines ou tous les 10 jours. Donc ça veut dire il faut que en fin de journée on ait non seulement décoffré le plancher ou le mur de la veille, qu'on ait coffré le mur ou le plancher de la journée et qu'on l'ait coulé. Et si éventuellement il faut dépasser l'horaire parce que le béton arrive en retard ou parce que nous on a pris du retard, on fait des heures supplémentaires. Donc ce qui est les heures supplémentaires peuvent être bien vues par ailleurs parce que travailler plus pour gagner plus, hein, ça marche aussi pour faire un peu de beurre dans les épinards. Par contre, ce qui est vraiment très détesté, c'est le fait que les heures supplémentaires sont complètement imprévisibles. Et que donc, même quand on n'en a pas, il faut faire comme si on en avait, et ce qui vraiment est une astreinte par rapport au reste de la vie.
Non, mais toujours sur les conditions de travail, tu parlais tout à l'heure des ergonomes qui ont cette contrainte comme ça de dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail, mais fondamentalement la contrainte qu'on leur donne, c'est de ne pas modifier à aucun moment les cadences, le rendement, et on a l'impression d'une collaboration impossible des ergonomes à l'amélioration des conditions de travail dans ces conditions-là.
Je vais pas du tout parler des ergonomes, je vais pas me fâcher avec eux parce que j'en ai jamais rencontré dans le bâtiment, jamais discuté avec leur manière de voir les choses, hein. Mais le discours que tu décris, par contre, j'ai beaucoup rencontré chez des inspecteurs de l'OPPTP, qui est l'organisme de sécurité professionnelle du bâtiment, ou chez des cadres du bâtiment. Et effectivement, par exemple, les inspecteurs de l'OPBTP, quand ils arrivent, c'est la panique. Alors là, la production, elle va moitié moins vite parce qu'il faut le faire dans les règles, donc ça va beaucoup plus lentement. On donne vraiment à voir qu'une parodie de travail. Bon, par ailleurs, même quand on fait de la parodie, des fois, ça se voit qu'on ne respecte pas les règles. Mais donc, tout le monde, cadre, ouvrier, tout le monde donne le change. Alors qu'on pourrait se dire les ouvriers, leur intérêt c'est quand même de montrer que ça marche pas bien. Certains le font, mais c'est rare, parce que en même temps les ouvriers perçoivent pas les inspecteurs comme des sauveurs, comme des gens qui vont permettre effectivement de vraiment changer les choses. Ils ont déjà l'expérience d'avoir dit ceci c'est dangereux, ceci c'est ou cela est dangereux, et il y a aucun changement. Donc et ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'une nouvelle règle de sécurité est instituée, puisque généralement la réponse technique c'est de dire ah bah s'il y a des problèmes il faut faire une nouvelle règle de sécurité, bah elle va être dirigée contre eux parce qu'ils vont être coupables de ne pas l'avoir respectée, puisque par ailleurs il faut qu'ils respectent les exigences de cadence.
Et tout ça nous ramène un petit peu sur la question des sans-papiers et des travailleurs clandestins dans le bâtiment. Alors si l'ensemble des gens qui travaillent dans le bâtiment ne sont pas soumis franchement aux règles de sécurité, eux encore moins que les autres, j'imagine.
Effectivement, c'est très 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 compliqué d'avoir un suivi des intérimaires. J'avais interviewé une médecin du travail qui disait que d'une année sur l'autre, elle n'avait pas l'impression d'en voir plus de 5%. Et là, on est dans une situation où des règles qui sont censées protéger les salariés en période de précarité, ça se retourne contre eux. Parce que, par exemple, cette médecin, elle expliquait qu'elle hésitait à mettre... Quand elle voyait qu'un ouvrier était abîmé, mais un ouvrier intérimaire, si elle met « apte sous réserve » sur la fiche, ce qui théoriquement protège le salarié, là, il est bien évident que l'agence d'intérim ne va plus jamais le reprendre. C'est même pas une fin de contrat, on va pas le licencier, on va juste pas le reprendre. Donc, c'était censé protéger les salariés, ça les protège pas. C'est un peu comme ce que décrit Annie Thébaumoni pour la sous-traitance dans le nucléaire, où il y a des doses de radioactivité qu'on ne doit pas dépasser, c'est normal, ça protège les gens, mais les intérimaires, craignant de perdre leur emploi, vont débrancher eux-mêmes leur dosimètre pour pas qu'on puisse mesurer qu'ils ont dépassé la dose. Et évidemment, en bout de course, ils s'abîment, mais c'est pour préserver leur emploi.
Oui, bon, le tableau que tu dresses est évidemment assez noir, à la fois en termes d'emploi, de conditions de travail. Bon, on se disait pour nos auditeurs qui ont déjà un peu le moral dans les chaussettes dans ces temps difficiles, est-ce qu'on peut voir un peu une lueur d'un peu d'espoir, quoi, de mobilisation syndicale dans ce secteur-là, ou d'autres types de mobilisation fondées sur des chantiers, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait des réactions face à ces formes de précarité, quoi?
Des réactions, il y en a. Des réactions collectives, des mobilisations, très peu. Les syndicats du bâtiment sont historiquement très faibles. C'était différent au début du siècle, mais ça, la tendance s'est vraiment inversée. Bon, du fait que c'est un secteur avec beaucoup de petites entreprises, et notamment avec la sous-traitance, ça n'a pas facilité les choses. Donc, dans les grosses boîtes, il y a des syndicats qui ont des CHSTT, qui peuvent éventuellement faire des choses, même s'il y a une discrimination syndicale très forte aussi, même s'il y a une lutte contre les syndicats. Mais par rapport à la sous-traitance, ils sont très démunis. À la fois juridiquement, parce que de toute façon, ils n'ont pas tellement les moyens de contrôler quelque chose, de contrôler que les intérimaires sont vraiment recrutés et qu'on les fait travailler dans les règles. Et puis, parce qu'ils sont vraiment dans une position défensive. On essaye de freiner la mise en sous-traitance, on essaye de freiner l'externalisation. Mais une fois que c'est fait, on n'arrive plus trop à faire quelque chose. Et je ne connais pas d'organisation de travailleurs intérimaires comme Sébastien Chauvin, par exemple, a pu en décrire pour les intérimaires aux États-Unis à Chicago. Par contre, ce qu'il y a, c'est une résistance sourde, continue, souterraine, qui marche, qui se manifeste essentiellement par la fuite. Dès qu'on trouve mieux, on s'en va. Dans le ferraillage, c'est souvent ce qui se dit, même si c'est un peu caricatural, c'est quand on a les papiers, on s'en va. Même à la limite, on va travailler pour le SMIC à Citroën-Aulnay à l'usine, alors qu'on gagnait un petit peu plus, même dans le ferraillage, en étant sans papiers, mais il faut s'en sortir. Bon, des fois, c'est plus difficile. Hein, quand on a les papiers, on reste quand même prisonnier du métier. Mais il y a la fuite, il y a, on va pas dire le sabotage, mais il y a le dégoût du travail bien fait, tout simplement. Dans les conditions actuelles, c'est pas forcément facile d'y trouver son pied. Et donc, on ne fait pas forcément très attention à ce qu'on fait avec les cadences, etc. Donc, et puis, il y a la déperdition de savoir-faire. Donc, c'est ce qui oblige en permanence, malgré tout, les entreprises à avoir des mécanismes de compensation. Certains intérimaires qu'on va fidéliser quand même un peu plus sur la longue durée, même s'ils restent intérimaires, même s'ils restent renvoyables du jour au lendemain. Grosso modo, il y a peu de mobilisation. Puis là, je pense qu'avec, si effectivement il se vérifie qu'il y a une augmentation des contrôles à l'égard des sans-papiers, et que la réaction des employeurs, c'est de diminuer les effectifs qu'ils vont utiliser directement, ça va être encore plus dur, j'imagine, de lutter.
Et justement, les organisations syndicales, on sait qu'elles ont toujours traité cette question-là avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire défendre les travailleurs peu qualifiés, en particulier les peu qualifiés immigrés, et encore plus les sans-papiers. Dans le bâtiment, tu as vu des expériences de délégués locaux qui essaient de tenir des liens avec cette main-d'œuvre?
Très, très peu. C'est très, très dur. Pour les délégués, je pense, enfin, je pense pas que c'est qu'une question de mauvaise volonté, encore qu'il y a des syndicats maison comme FO à Bouygues ou qui méprisent ouvertement, ostensiblement, les intérimaires, les travailleurs extérieurs. Mais c'est très très dur de lever les antagonismes que sécrète la production au quotidien. C'est-à-dire que quand on est sous-traitant, intérimaire, et qu'on a des rapports avec les embauchés, abstraitement, on peut se dire on est tous dans le même bateau, on est tous de la même classe et il faudrait lutter. Quotidiennement, on se fout sur la gueule à cause de problèmes de production. Et souvent, les délégués du personnel vont être appelés à faire pression auprès de leur direction pour que les sous-traitants ou les intérimaires travaillent un peu plus dans les règles. Alors c'est vrai que les sous-traitants et les intérimaires travaillent moins dans les règles, notamment de sécurité, que les embauchés. Mais c'est parce qu'on leur impose davantage de cadence. Et comme alors cette règle, éventuellement, ils vont avoir gain de cause et cette nouvelle règle va être appliquée, mais du côté du sous-traitant de l'intérimaire, on n'aura pas donné plus de moyens, donc ça va être vécu avec amertume, avec rancœur, éventuellement du côté intérimaire. Pour citer juste un exemple, le seul mouvement que j'ai vu sur un chantier où il y avait du verglas, et il faisait beau, mais il y avait du verglas. Donc pour l'encadrement, il n'y avait pas intempérie, il faisait beau, mais pour les ouvriers, il y avait intempérie parce qu'il y avait du verglas et qu'on risquait de se casser la figure. Et que par ailleurs, le délégué avait voulu faire signer un papier au chef de chantier où il disait qu'il assumerait un éventuel accident. Le chef de chantier avait refusé. Donc, il y a eu un mouvement, mais qui a été mené exclusivement par les embauchés de l'entreprise générale. Et en arrière, les sous-traitants et les intérimaires soit soutenaient silencieusement, et le soutenaient silencieusement en disant « ils ont raison, mais nous, on peut pas, on est obligé d'attendre la décision, et bon, voilà, on fait en fonction », soit même certains étaient franchement hostiles en disant « eux, si c'est mis en intempérie, eux, ils vont être payés, mais nous, on va être niqués, ça les concerne que eux ». Et effectivement, ça a été mis en intempérie. Un certain nombre d'intérimaires se sont vus sucrer, carotter leurs indemnités d'intempérie, et personne s'est battu pour eux.
Voilà, alors l'émission va se termine. Juste dire deux mots de ce travail. Il va être publié, si j'ai bien compris, à la découverte.
Si tout va bien, mais je suis en train de le rédiger, donc au début de l'année 2008.
Voilà, donc là c'est carrément une exclue. Hein. Voilà, bah, écoute Nicolas Jounin, merci beaucoup pour toutes ces explications. A priori, on va pas se destiner pour une carrière dans le bâtiment. Et puis, voilà. Merci beaucoup.
Merci.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Alors, pour bâtir une émission, il fallait ce soir des fondations. Les fondations marxistes-léninistes en béton armé avec Georges Labica et son intervieweur en chef, Guillaume Yom. Pour la toiture en pain d'épices et en sirop de liège, il y avait l'ami Cédric. Et puis, pour poser les plaintes, il y avait Alex. Il y avait aussi celui à qui a mis fin à son contrat de chantier avant terme. C'était Jérémy, Atomique Jérémy. Et puis, pour la prestation transnationale de service, il y avait ce soir Manuela. Et puis, si tu es triste de nous quitter, pas la peine de pleurer au-dessus du mortier, puisque tu peux nous retrouver sur le site internet loldf.org. À loldf.org, il y a toutes les archives des émissions, les chroniques et tout ça et tout ça. Et puis tu peux retrouver Les Oreilles Loin du Front dans sa rediffusion tous les vendredis de 12h30 à 14h sur Fréquence Paris Pluriel. Et puis pour te consoler, tu peux encore continuer à écouter Fréquence Paris Pluriel avec les Échos du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.